Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en universel du jeudi 28 mars 2019. Abdourahmane Dia et Eric Manirakiza à la présentation. Voici les titres.
Au Burkina Faso, 4 gendarmes tués ce matin lors d'une attaque près de la frontière avec le Mali.
Des tirs ont été entendus dans la capitale comorienne après l'arrestation de l'un des candidats malheureux à la présidentielle.
Une puissante explosion a secoué Mogadiscio, faisant plusieurs victimes.
La Russie avertit que ses militaires resteraient aussi longtemps que nécessaire au Venezuela.
Et ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal.
Bienvenue à tous. En Somalie, au moins 12 personnes ont été tuées, plus de 20 blessées lors de l'explosion d'une voiture piégée devant un restaurant de Mogadiscio. Nathalie Barche.
Il y a eu une puissante explosion, vraisemblablement provoquée par un véhicule chargé d'explosifs, a déclaré Adan Abdelkadir, un membre de la sécurité gouvernementale. Le toit du restaurant Bilzan s'est effondré alors que de nombreuses personnes se trouvaient à l'intérieur. Au moins 6 autres personnes ont succombé à leurs blessures avant d'arriver à l'hôpital, ont indiqué les services ambulanciers. Mogadiscio connaît une recrudescence d'attaques islamistes depuis quelque temps. Samedi dernier, des membres d'Al-Shabaab ont pris d'assaut un bâtiment gouvernemental dans la capitale, tuant au moins 15 personnes.
Nathalie Barge. Au Burkina Faso, 4 gendarmes ont été tués ce matin dans une attaque qui a visé la gendarmerie de Barani, frontalière du Mali. Cette attaque terroriste a aussi occasionné d'importants dégâts matériels, dont un véhicule incendié, a indiqué une source sécuritaire. Des opérations de ratissage ont été entreprises par les forces de sécurité et sont toujours en cours.
Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au cœur d'une réunion à Niamey. Les ministres des Finances de la zone franc veulent renforcer davantage la dynamique de l'intégration des marchés et des capitaux de la zone, la mobilisation des ressources internes et la lutte contre les flux financiers illicites. À l'ouverture de la réunion, le premier ministre nigérien Brigui Rafini a encouragé ces pays à moderniser leurs finances publiques pour améliorer les recettes afin de financer les politiques de développement économique et social tout en sauvegardant leur stabilité. Les gouverneurs des banques centrales des États membres y assistent également. La France est doublement représentée à la réunion par son ministre des Finances Bruno Le Maire et le gouverneur de la Banque de France.
Au moins 170 civils ont été tués depuis octobre dans les régions anglophones du Cameroun. Human Rights Watch indique que les forces gouvernementales dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays ont tué de nombreux civils, ont tué de nombreux civils et brûlé des centaines de maisons ces 6 derniers mois. L'organisation précise que le nombre de civils tués est probablement plus important au vu de l'intensification des violences et de la difficulté à collecter l'information dans ces zones. Le gouvernement a rejeté ces affirmations.
Des tirs ont éclaté à Moroni, la capitale des Comores, juste après l'arrestation d'un des principaux rivaux du président Azali Assoumani, réélu dimanche au terme d'un scrutin contesté. Le pouvoir affirme que la situation est sous contrôle. Yacouba Ouedraogo.
L'un des candidats malheureux, le colonel Swalihi Mohamed, a été interpellé peu de temps après avoir annoncé qu'il prenait la tête d'un conseil national de transition destiné à régler la crise post-électorale et à assurer une transition pacifique. L'un des membres de son état-major de campagne, Kamal Edin Sindou, a expliqué qu'il a été appréhendé à son domicile par des gendarmes. Peu après, des témoins ont rapporté avoir entendu des tirs autour du camp militaire Kandani à Moroni. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a affirmé que la situation est entièrement sous contrôle. Il y a eu des tirs près de la caserne, mais ce n'est pas un gros problème, a-t-il poursuivi, soutenant que les gens se sont affolés pour rien. Monsieur Azali a été réélu dès le premier tour du scrutin avec 60,77% des suffrages selon les résultats provisoires proclamés par la commission électorale. L'opposition hurle au hold-up ou au coup d'État électoral, dénonçant ce qu'elle qualifie de fraude massive du camp présidentiel. Les ONG comoriennes et certains observateurs étrangers ont confirmé les irrégularités relevées par les 12 adversaires du chef de l'État sortant. Le pouvoir a rejeté ces critiques.
Nouvelle journée test de grandes manifestations demain vendredi en Algérie. Une occasion pour les dirigeants algériens qui ont tour à tour lâché le président Bouteflika de savoir si leur proposition de mise à l'écart du président suffit à apaiser la contestation populaire. Tous les plus zélés prosélytes du chef de l'État ont poussé sa candidature à un cinquième mandat. Détonateur de la contestation s'en écarte désormais. Il s'agit notamment du général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée depuis 15 ans.
Les États-Unis souhaitent investir dans le domaine de l'énergie en République démocratique du Congo. C'est leur ambassadeur qui l'a dit hier soir à Kinshasa. Kinshasa qui affiche un taux d'électrification de l'ordre de 9% alors que la moyenne africaine recommandée est de 30% au moins. Mike Hammers, qui se félicite de la prochaine visite du président Félix Tshisekedi à Washington, précise toutefois que pour que les investisseurs américains viennent en RDC, les nouveaux dirigeants congolais doivent avant tout lutter efficacement contre la corruption et améliorer le climat des affaires. On écoute Mike Hammer au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est nécessaire d'avoir un peu de familiarisation aux États-Unis, de la possibilité d'émerveillement aux États-Unis. La visite du président Félix Tshisekedi la prochaine semaine sera une grande opportunité pour promouvoir les opportunités au Congo, mais c'est nécessaire de combattre contre la corruption, parce que s'il y a de corruption, c'est très difficile d'avoir d'émerveillement américain. Mais mon travail est de promouvoir les opportunités, travailler avec le gouvernement congolais pour voir qu'est-ce que c'est possible et être préparé à aider les investisseurs américains à venir s'établir ici au pays. Nous sommes prêts à travailler avec le nouveau président, Félix Tshisekedi. Son programme nous intéresse beaucoup parce qu'il a dit que ses priorités sont de combattre contre la corruption, avoir le respect pour les droits de l'homme, de fortaliser la justice, d'avoir d'investissement américain. Nous sommes prêts à soutenir ces projets. C'est un moment historique pour la RDC.
C'était l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer.
Migration vers l'Europe. L'armée maltaise dit avoir pris le contrôle d'un pétrolier qui avait été détourné par des migrants sauvés au large des côtes libyennes. Les détails de Morgane Guiriec.
Le pétrolier El Iblou 1 s'est amarré aujourd'hui dans un port de La Valette, la capitale maltaise, quelques heures après son interception à environ 30 000 marins de la côte maltaise. Le navire avait pris la direction de Tripoli en Libye après avoir sauvé des migrants mardi en Méditerranée. Mais les passagers se sont révoltés et ont forcé l'équipage à faire demi-tour et se diriger vers le nord à destination de Malte. L'équipe des opérations spéciales maltaises a fini par intervenir et a rendu le contrôle au capitaine après qu'il lui a envoyé un message de détresse. Plusieurs migrants ont été arrêtés après avoir atteint Valletta. L'Union européenne a annoncé mercredi qu'elle mettrait fin à ses patrouilles navales dans la mer Méditerranée qui ont sauvé de nombreux réfugiés lors de la dangereuse traversée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Kremlin a demandé ce jeudi à Donald Trump, qui a sommé la Russie de quitter le Venezuela, de se mêler de ses affaires et de la respecter, assurant que les spécialistes russes arrivés récemment à Caracas s'y trouvaient dans le cadre de la mise en œuvre de contrats. Ekiabadou.
Nous ne nous ingérons d'une aucune manière dans les affaires intérieures du Venezuela et nous attendons des autres pays qui suivent notre exemple et laissent les Vénézuéliens décider eux-mêmes de leur destin, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La Russie et le Venezuela ont conclu en 2011 un accord de coopération militaire prévoyant la vente d'armements russes à Caracas. Le ton ne cesse de monter entre Washington, qui reconnaît comme une cinquantaine de pays Juan Guaido comme président par intérim et réclame le départ de Nicolas Maduro, et Moscou, qui accuse les États-Unis d'essayer d'organiser un coup d'État dans ce pays aux immenses réserves pétrolières. La Russie doit partir, a lancé M. Trump en recevant dans le bureau ovale Fabiana Rosales, épouse du chef de file de l'opposition Juan Guaido. Ces tensions ont connu un nouveau pic depuis l'arrivée le week-end dernier de deux avions russes.
L'ex-chef des Serbes de Bosnie, Radovan Karadžić, a fait appel de la décision d'un tribunal de l'ONU qui l'a condamné à perpétuité pour des crimes commis pendant la guerre de Bosnie dans les années 90. Il a été reconnu coupable d'avoir participé à plusieurs massacres, dont celui de Srebrenica, qui avait fait plus de 8 000 morts
plutôt. Et une ONG belge demande le rapatriement rapide par les Occidentaux des enfants de djihadistes blessés ou en situation précaire dans les camps du nord-est syrien sous contrôle kurde. Selon la fondation Child Focus, la situation humanitaire dans ces camps, notamment celui d'Al-Khol, s'est aggravée depuis l'arrivée récente de nombreuses familles après la chute du dernier bastion du groupe État islamique dans l'est syrien.
L'Arabie saoudite a libéré 3 des 11 militantes des droits humains détenues depuis l'année dernière à la suite d'une campagne de répression.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Sylvani Talani.
Le gouvernement tchadien vient de démasquer 1991 fonctionnaires détenteurs de faux diplômes. La Tribune annonce que parmi eux, 607 relèvent du ministère de l'Éducation nationale, 407 de la Santé, 197 des Finances et Budgets, 156 de la Sécurité publique, 75 de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, 78 de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche et 2 de la Communication. 300 en fonction à l'Assemblée nationale et 7 à la présidence de la République. Les fonctionnaires incriminés ont été privés de leur salaire de mars. Ils peuvent procéder à des réclamations s'ils sont victimes d'erreurs. Le terminal pétrolier gabonais exploité par Valco Énergie avec 14 000 barils de pétrole par jour a repris sa production aujourd'hui après 2 jours de fermeture à cause d'une grève sur le congé annuel des employés. Le syndicat des travailleurs du secteur pétrolier déclare que les négociations avec Valco commenceront la semaine prochaine avec l'aide du ministère du Pétrole. Mais la lutte se poursuivrait si ses exigences n'étaient pas satisfaites. Terminons cette minute éco avec la RDC qui a reçu de la BAD 20 millions de dollars destinés à un programme d'électrification grâce aux énergies renouvelables des villes d'Isiro, Bumba et Guenena qui jusque-là ne sont pas raccordées au réseau électrique national.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Patrice Carteron veut sa revanche contre l'Espérance.
Oui, le Français aujourd'hui sur le banc des Marocains du Raja de Casablanca retrouve l'Espérance de Tunis demain à 16h temps universel pour la Supercoupe de la CAF. Les Tunisiens l'avaient battu en finale de la Ligue des Champions alors qu'il était à la tête d'Alali. Fin novembre, Patrice Carteron butait sur l'Espérance de Tunis au terme d'une remontée incroyable des Tunisiens. Battu à l'aller 3-1 mais vainqueur au retour 3-0. 4 mois plus tard, le voilà à 90 minutes de venger cet affront à Doha au Qatar. Raja et Espérance comptent une victoire chacun dans ce match qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Coupe CAF.
Manchester United confirme son entraîneur.
Oui, Ole Gunnar Solskjaer, qui avait pris l'intérim sur le banc de Manchester United après le renvoi de José Mourinho en décembre dernier, a été confirmé à son poste. Le Norvégien a signé un contrat de 3 ans. L'ancien attaquant emblématique de Man U est récompensé de ses excellents résultats. Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, il a ainsi remporté 14 victoires en 19 matchs. Les Red Devils sont 5e de la Premier League à la lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils affronteront le FC Barcelone en quart de finale de cette Ligue des Champions dans 2 semaines.
Paris accueillera son premier match de NBA en janvier 2020.
Oui, ce sera le 24 janvier 2020 entre les Charlotte Hornets de Tony Parker et Nicolas Batum et les Milwaukee Bucks, meilleure équipe actuelle emmenée par le phénomène grec d'origine nigériane Gianni Antetokounmpo. Paris a déjà accueilli les matchs d'avant-saison de NBA dans les années 90 et 2000, mais aucune rencontre de saison régulière. Londres était jusqu'à présent l'unique ville européenne à recevoir ce type de match. 9 rencontres au total entre 2011 et 2019. Le Japon, la Grande-Bretagne et le Mexique sont les seuls pays à avoir organisé ce que la NBA appelle les Global Games.
Kevin Mayer et Nafissatou Thiam au menu du Decathlon de Talence.
Oui, le recordman du monde du décathlon, Kevin Mayer, et la Belge Nafissatou Thiam, reine de l'heptathlon depuis 3 ans, seront les principales têtes d'affiche du 43e Décastar de Talence du 22 au 23 juin prochain. Mayer, 27 ans, reviendra sur le stade de ses exploits de l'an dernier, où il avait pulvérisé le record du monde du décathlon détenu par l'Américain Houston Heron. Thiam, 24 ans, championne olympique à Rio en 2016, championne du monde à Londres en 2017 et d'Europe à Berlin en 2018, participera pour la première fois de sa carrière à l'épreuve girondine.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Abdourahmane Dia et Eric Manerakiza, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
L'avocat et opposant togolais François Boko s'est vu refuser ce jeudi l'autorisation d'embarquer à l'aéroport parisien de Roissy à destination du Togo. Il avait démissionné en 2005 de son poste de ministre de l'Intérieur et s'était exilé en France. De passage à la VOA, Voix de l'Amérique, ici à Washington, ce mois-ci, il avait expliqué avoir obtenu l'accord de principe du président togolais Faure Gnassingbé pour regagner Lomé. Timothée Donangmaï a joint François Boko à Paris.
J'avais déjà la veille fait le pré-enregistrement et il fallait juste aller achever les formalités. C'est au cours des formalités que, au vu de mon passeport, une responsable, la chef d'escale de Air France, qui m'attendait à l'enregistrement, m'a dit « Monsieur, nous avons reçu des instructions précises des autorités togolaises de ne pas vous laisser avoir accès à l'aéronef. » Je dis « Mais pourquoi ?» Et ils me disent « Non, non, c'est des instructions fermes que nous sommes tenus de respecter. Sinon, les autorités togolaises ne nous donnent pas l'autorisation d'atterrissage. » Donc, en clair, ces instructions étaient fermes. Il ne fallait pas laisser M. Boko embarquer sous peine de refus d'atterrissage de la part des autorités togolaises.
Et pourtant, de passage ici à Washington, vous nous aviez dit que les discussions étaient assez avancées avec les autorités togolaises pour votre retour.
Oui, les discussions non seulement étaient assez avancées, mais le chef de l'État avait marqué son accord de principe pour mon retour au Togo et avait promis dans ce sens à la délégation d'émissaires, puisque vous savez que les discussions ont eu lieu par émissaires interposés. Le chef de l'État m'a envoyé 3 émissaires au cours de l'année 2018. Je lui ai rendu la politesse en lui envoyant aussi des émissaires. Et lors des discussions, il avait marqué son accord sur mon retour et sur les modalités de sécurité. Il avait renvoyé, en ce qui concerne les modalités de sécurité, il avait renvoyé la délégation à prendre la tâche du ministre de la Sécurité. Et en ce qui concerne mon passeport, il avait envoyé la délégation à prendre la tâche de l'ambassadeur du Togo en France pour les formalités de passeport. Je dois avouer, c'est vrai, que depuis, en dépit de cet accord de principe qu'il a donné, le ministre de la Sécurité n'a jamais reçu la délégation d'émissaires qui a relancé la demande d'audience de rendez-vous à plusieurs reprises. Et le certificat de nationalité qui permet de l'établir, le passeport, est toujours en souffrance dans le circuit administratif. La directrice du service de nationalité estimant que, n'ayant pas reçu les instructions d'en haut, elle ne pouvait pas poser un acte dans un dossier aussi sensible.
Qu'allez-vous faire à présent?
J'estime que nul n'a le droit de m'exclure de mon pays indéfiniment. Je vais continuer à me battre pour entendre raison aux autorités togolaises, pour leur dire que j'ai le droit de rentrer dans mon pays et je rentrerai dans mon pays, quoi qu'il en soit, pour apporter ma pierre à l'édifice national.
Le président togolais, François Boko.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, dans ce Washington Forum, nous parlerons du Mali. Après le massacre samedi dernier de plus de 160 personnes, toutes de la communauté Peul, dans le village d'Ogossagou, le gouvernement malien a remplacé les principaux chefs de l'armée et dissous la milice d'Ogon, Danan Ambassagou, accusé d'avoir mené cette attaque, mais le responsable de cette milice dément toute implication dans les tueries. Que pensez-vous des mesures prises par le gouvernement? Ce drame était-il évitable? Quelle est la solution à privilégier pour apaiser la situation dans le centre du Mali? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique.
Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Direction le Cameroun, où six organisations de la société civile travaillant sur les questions foncières ont reçu récemment des subventions de l'Union européenne. Ces ONG œuvrent pour l'accès à la terre des couches vulnérables, des personnes défavorisées et autochtones de différentes régions du Cameroun. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Madame Ousmanou Dokonodi Laouba milite depuis 22 ans pour l'amélioration du contrôle des terres et ressources naturelles par les femmes de la région de la Damawa. Dans cette partie du Cameroun, l'islam est la religion dominante. La présidente de l'association Femmes et Développement de Bayanga dit se battre depuis lors contre les pesanteurs religieuses et culturelles sur la question foncière. Ousmanou Dokonodi Laouba.
Nous voulons que tout le monde prenne conscience et que si une femme se sent capable d'accéder à la terre, qu'elle ait le cutus, par exemple, le leader religieux, de faciliter cet accès à la terre à la femme.
L'association de Ousmanou Dokonodi a reçu une subvention de 10 millions de francs CFA. Sa promotrice, une sexagénaire, s'est fixé l'objectif d'associer à son combat 200 personnes de la région de la Damawa en 6 mois. Norbert Bouba est un autre bénéficiaire. Il compte 7 années d'expérience dans la protection des droits communautaires des victimes des activités minières dans l'arrondissement de Figuil, dans le nord du Cameroun. Norbert Bouba, responsable de l'association CELPRO, basée à Figuil.
À Figuil, lorsque Simenka a obtenu le permis de recherche en 2012, vous avez des bornes placées partout dans les champs, même dans nos maisons et autres.
Est-ce que Simenka a une déclaration d'utilité publique? Sa superficie commence où? S'achève où? Quelles sont les marges qui sont réservées pour les communautés?
Simenkam, une société de production de ciment, est implantée au Cameroun depuis 1963. À cause de l'engagement de Norbert Bouba à protéger les droits fonciers des riverains, menaces et plaintes auprès des autorités sont devenues son lot quotidien, confie-t-il à VOA Afrique. La question foncière au Cameroun connaît aussi l'engagement des jeunes. À Mangju, à 344 km de Yaoundé, Francis Kamban dirige la fondation Confucius. La gestion des conflits fonciers agro-pastoraux entre Camerounais et réfugiés centrafricains est au centre de ses interventions.
Vous savez qu'il y a un phénomène de corruption. La plupart des réfugiés qui ont accès à la terre, ce sont des bergers qui ont beaucoup d'argent. Et vous comprenez qu'aller voir une autorité administrative et faire taire l'affaire devient très facile pour eux. Du coup, les communautés hautes restent sans voix.
Dans le cadre d'un projet dénommé Landcam, financé par l'Union européenne, le Cameroun ambitionne dans les 5 prochaines années de sécuriser les droits liés aux terres et aux ressources et améliorer la gestion des zones forestières. Le Centre pour l'environnement et le développement CED est parmi les 3 organisations du consortium Landcam. Serge Guifaud, secrétaire général du CED.
Le but, c'est de fédérer tous les acteurs qui travaillent sur le foncier dans notre pays pour ensemble améliorer le diagnostic que nous posons sur la manière dont la terre est gérée et contribuer de manière efficace à la réforme.
Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En République du Congo, les populations attendent depuis 6 mois la mise en place de la nouvelle haute autorité de lutte contre la corruption après la dissolution de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'Observatoire national anticorruption. La corruption est devenue une vraie gangrène dans ce pays, nous dit notre correspondant sur place, Arsène Séverin.
C'est depuis septembre 2018 que les Congolais attendent la haute autorité de lutte contre la corruption, le nouvel organe qui va traquer les corrupteurs et les corrompus. Selon la nouvelle loi, la haute autorité de lutte contre la corruption est dotée d'importants pouvoirs d'investigation et de saisine à la justice et sera dirigée par une personnalité indépendante. Analyse des fortunes, Megzan Animba, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, une ONG locale.
J'ai pas les moyens d'expliquer ce retard, mais on peut imaginer que est-ce que les gens sont prêts à aller déjà vers cet outil de lutte contre la corruption qui va finalement leur échapper? Les gens continuent à réfléchir de comment on peut quand même conserver la main sur cet outil. Les gens prendront le temps d'évaluer le risque.
Pour l'économiste Augustin Benazo, la corruption fait du mal à l'économie nationale.
L'effectivité de la défense au Congo n'est que de 30%. Voilà, c'est un problème. Voilà. Donc ça montre qu'il y a des faiblesses. Ça a un impact sur l'évolution des politiques publiques au niveau de notre pays.
L'opposition ne croit pas à la la volonté du gouvernement d'aller en attaque contre la corruption. Elle estime que les dignitaires du pouvoir devraient être eux-mêmes la cible de la haute autorité de lutte contre la corruption. Professeur Charles Zachary Bouaou, porte-parole de la Fédération de l'opposition congolaise.
Nous n'y croyons aucunement. La preuve, la Commission nationale de lutte contre la corruption s'est mise debout avec un certain nombre de dossiers rendus publics. Au terme de ces dénonciations du système lui-même, cette commission a été dissoute au profit d'une hypothétique haute autorité en la matière et le pouvoir actuel. Dans les grands tenants sont impliqués dans tous ces dossiers, ne pourra jamais être jugé parti. Il n'y a rien de sérieux.
L'ancien ministre Alain Akwala, qui est par ailleurs membre du PCT, le parti présidentiel, affirme qu'il n'est plus question de majorité ou d'opposition, mais d'éradiquer une gangrène qui ronge le pays depuis bien longtemps.
C'est difficile de faire la chasse à tout le monde. Nous savons tous dans quel système nous avons baigné. Et cette culture de la corruption est liée au fait que, depuis toujours, le Congolais associe le fait d'acquérir une espèce de progression économique par un poste dans l'administration, un poste obtenu grâce à la politique. Nous n'avons pas au Congo des réussites liées au fait que nous avons des grands capitaines d'industrie. On n'est pas là à se jeter la pierre sur opposition, majorité. C'est là que nous devons être capables de faire preuve, si vous voulez, de transcendance politique. Parce que cette culture ne date pas d'il y a maintenant. Donc, il va falloir extirper ce mal.
Après l'adoption au Parlement de la nouvelle loi sur la corruption, tous les acteurs attendent maintenant sa promulgation par le président de la République. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La plateforme syndicale dynamique unitaire du Gabon est très inquiète de la situation sociopolitique du pays. Cette coalition des syndicats, des agents publics de l'État et des acteurs de la société civile émet des réserves sur la santé d'Ali Bongo Ondimba et remet en cause le plan gouvernemental de réduction des effectifs de la fonction publique. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
La Confédération syndicale gabonaise, dénommée Dynamique Unitaire, fait son diagnostic de la situation sociopolitique du pays. Pour Jean-Rémy Yama, coordonnateur de cette plateforme syndicale, les voyants sont au rouge et dénoncent le projet de réduction des effectifs de la fonction publique envisagé par le gouvernement. Jean-Rémy Yama.
La Confédération syndicale Dynamique Unitaire dit non. Non et non à la réduction de 10% des effectifs de la fonction publique. Le cas échéant, les actions d'envergure seront déclenchées sur le terrain immédiatement.
Dans son exposé de motifs justifiant la levée de boucliers des partenaires sociaux, Dynamique Unitaire évoque le retour au pays du chef de l'État gabonais avec des réserves sur sa santé, Jean-Rémy Yama.
Même en considérant que les images du 23 mars 2019 seraient vraies, il est clairement établi qu'Ali Bongo Ondimba est sérieusement diminué, ne dispose pas de toutes ses capacités cognitives et donc n'est plus capable d'assurer les charges inhérentes à la fonction de président de la République.
Mais en réponse à tous ces débats qualifiés d'ubuesques par le camp présidentiel, le Parti démocratique gabonais au pouvoir invite ses adversaires politiques à rompre avec les débats vides de contenu constructif et positif pour laisser place à des articulations de propositions favorisant le vivre ensemble gabonais. Estelle Flore Agangou, porte-parole du PDG.
Comme le distingué camarade président l'a dit lui-même, je cite, « C'est avec une volonté et une énergie décuplées que je poursuis ma mission au service de notre pays. Une nouvelle étape du septennat s'ouvre. » Fin de citation. Le temps est venu de laisser le président de la République, son Excellence, Ali Bongo Ondimba et le gouvernement assurer la réalisation des aspirations du peuple gabonais, consolider davantage l'unité nationale et accélérer la transformation du Gabon. Le PDG appelle à cet effet les compatriotes à la vigilance, à la prudence et à la prévenance face aux formules politiciennes creuses, à la langue de bois.
Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno, DGLS. À la console, Carol Sterling. À la présentation, Abdelrahman Dia et Eric Manilakis.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Dans quelques secondes, on notre point sur l'actualité avec Henri Francisco. Au revoir.